Question d'Islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de l'épistémologie du réel. Alors, de quelle épistémologie s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce thème? L'épistémologie coranique du réel avec le grand imam de Bordeaux, Tariq Obrou. Tariq Obrou, bonjour.
Bonjour.
Je suis extrêmement heureux de vous avoir en ligne via l'application Lipotit, puisque vous êtes à Bordeaux et vous nous faites l'amitié de nous donner d'abord de votre temps et de partager avec nous votre savoir. Le « nous », ce sont davantage nos amis auditeurs qui vous en sortent en gré. Alors, pour dire les choses en toute simplicité, je vous ai entendu dans un colloque international à Genève où vous avez fait une communication intitulée « Pour une épistémologie coranique du réel ». Je ne sais même pas s'il y avait le « pour » ou pas. Et je m'étais dit, si cette communication pouvait être bien détaillée pour nos auditrices et nos auditeurs, ça serait bien. Alors, l'épistémologie, en gros, c'est un discours rationnel, une étude, une théorie sur le savoir, sur la science, sur la connaissance. Qu'est-ce que c'est, si je devais faire l'exégèse du titre, pour une épistémologie coranique du réel, qu'est-ce que cela veut dire, cher Tariq Obrou?
J'entends par épistémologie un mode de connaissance qui convoque plusieurs dimensions de l'être humain, puisque nous pensons la connaissance à travers notre dimension corporelle, biologique, temporelle, à travers une épistémé, c'est-à-dire une façon de comprendre les choses liées à une époque donnée en fonction des connaissances disponibles à chaque époque, mais également l'épistémologie convoque l'imagination créative, l'intuition, l'instinct, et donc l'épistémologie coranique, c'est une épistémologie qui s'inspire de la révélation coranique comme un mode de communication entre le ciel et la terre, une information qui surgit dans l'esprit du prophète. Il faudrait faire une petite distinction ici entre la notion de le wahi, la révélation, et le mushaf, c'est-à-dire le corpus, cette photographie.
Le codex.
Le codex qui a été fixé, qui n'est qu'une photographie de cette révélation. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la scénographie de la révélation, le dynamisme de cette information qui a interagi avec le réel pendant 23 années. Donc pour comprendre ce texte, il faut faire un montage qui convoque beaucoup d'imagination pour pouvoir justement suivre le dynamisme de cette révélation, l'interaction avec ce que j'appelle le moment coranique, c'est-à-dire une parole de Dieu qui fait éruption dans le monde temporel et qui compose avec une réalité dynamique, cinétique, et qui se déplace par essence. Ce qui peut expliquer beaucoup de changements dans les fréquences et les informations coraniques. Donc il faut passer du texte, justement, à la notion de la révélation pour pouvoir redescendre, pour pouvoir comprendre les significations du texte. Le réel... J'entends par réel, le réel du moment coranique, donc comprendre comment la révélation a composé avec la réalité anthropologique, historique, ethnologique de l'époque, du contexte mécois, puis médinois, puis de manière plus générale, le monde de cette époque-là.
Au 7e siècle.
Au 7e siècle. Et puis, il y a un deuxième réel qui va nous intéresser, c'est le réel d'ici et maintenant. Donc il y a en réalité deux épistémologies herméneutiques, comprendre le texte dans le contexte de la révélation, qui part de la réalité de la révélation pour en saisir les significations qui sont relatives, c'est-à-dire à l'universel qui s'incarne dans le particulier de moment coranique, mais comprendre le texte ici maintenant, il faut partir d'une épistémologie du réel, comprendre notre époque pour pouvoir développer une théorie herméneutique pour saisir le sens universel du message coranique. C'est un travail d'archéologie, d'herméneutique pointue pour pouvoir saisir ce souffle, puisque le Coran se définit comme un souffle. Le Coran dit « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا » Ainsi, nous t'avons révélé un souffle de notre part, donc c'est Dieu qui parle dans le Coran. Ce souffle a pris corps dans la lettre arabe, mais également a pris forme dans le corps social et anthropologique de l'époque. Comment faire sortir cet esprit, l'extraire, stinbat, extraire cet esprit pour pouvoir l'envelopper et l'intégrer dans le corps social et historique qui nous occupe ici et maintenant.
Bien, Tal Kobrou, le devenir même du fait coranique ou du phénomène coranique, comme disent certains, dans le temps, ça ne nous appartient pas, parce que d'aucuns diront « Oh, vous savez, la révélation n'aura pas d'effet dans 3000 ans, 4000 ans, tout cela relève de la longue et lente maturation de la connaissance de l'humanité. Mais pour ce qui nous concerne maintenant, si je vous suis, si je comprends bien, on a un Dieu qui parle aux hommes, sa parole lui est consubstantielle, elle est descendue une première fois dans un empyré céleste, et puis elle va être morcelée pour s'articuler dans l'histoire, entrer, épouser les contingences humaines, d'abord une première fois au 7e siècle de l'ère commune, dans un contexte bien particulier, et puis de nos jours maintenant, en faisant le saut de 15 siècles quasiment, comment tout cela résonne et influe sur la psyché de milliards d'hommes.
Écoutez, d'abord la question de la consubstantialité de la parole et de Dieu est une notion qui a fait l'objet d'un âpre débat théologique sur la nature de cette parole. La majeure partie des théologiens, y compris les théologiens orthodoxes, ne confondent pas le verbe de Dieu et Dieu lui-même. Le verbe vient de Dieu, mais n'est pas devenu Dieu. Donc, pour les Ash'arites, il y a la parole ontologique de Dieu inaccessible à la simple raison humaine. On n'a que la trace, l'ibara, c'est-à-dire l'expression de cette parole dans la langue arabe pour le Coran, dans la langue hébreu pour la Torah, et dans la langue araméenne pour l'Évangile. C'est le même Dieu, c'est la même parole, mais qui s'exprime dans un langage humain. Nous n'avons que cette deuxième langue, cette deuxième parole. Même les Hanbalites ne confondent pas justement la nature de la parole de Dieu qui est naturelle et son éruption dans l'histoire, ce qu'ils appellent la parole essentielle, substantielle, l'Aïn, c'est-à-dire en vérité nous n'avons que cette substance qui s'exprime dans le temps. Donc, bien sûr, les Mu'tazilites, eux, ils ont une autre économie de la communication divine, puisqu'ils pensent que Dieu n'a pas communiqué directement, mais il a créé cette parole en dehors de lui. Tout le monde est d'accord que cette parole s'origine en Dieu lui-même. Ils ne sont pas d'accord sur l'économie de ce qu'on appelle la descente, c'est-à-dire la manifestation de cette parole dans l'univers des humains. Donc, il y a toujours une distance qui est gardée et c'est heureux pour la raison humaine parce qu'il y a une marge de manœuvre, c'est-à-dire que cette parole n'est pas absolue, il est absolu de par son origine, mais il est relative de par son expression. Donc l'universel divin, il s'exprime dans la singularité de l'histoire humaine. Donc cette introduction elle est très importante parce que beaucoup de musulmans confondant l'absoluité de la source avec l'absoluité du sens de la révélation. Et donc, déjà, on désamorce le littéralisme. Si on fait cette distinction entre la parole intérieure de Dieu et la parole qui s'exprime dans le langage humain, on relativise déjà, de prime abord, les significations du Coran. Donc, ça nous met un petit peu vraiment à l'aise quand on travaille sur le Coran, on travaille sur les traces de Dieu, le Coran se qualifie comme un ensemble de ayat, qui sont des signes, qui sont des traces. Donc en réalité, quand on fait l'herméneutique du Coran, on fait l'herméneutique de la trace de Dieu, mais on ne fait pas l'herméneutique de l'ontologie de Dieu en tant que telle. Donc effectivement, cette introduction théologique et métaphysique, elle est très importante pour justement aborder la lettre du texte. Alors, et donc, ce qui nous permet toujours de renouveler le sens du texte en fonction de l'évolution du contexte.
Alors, par souci de ne pas vous interrompre dans votre développement, cher Tahar Koubrou, je ne voulais pas dire que vous avez évoqué à la fois les Ash'arites, les Hanbalites et les Mu'tazilites, que vous connaissez très bien, alors que nos auditeurs auraient souhaité comprendre davantage, ne serait-ce que d'une manière très sommaire, leur tendance, en quoi ne sont-ils pas d'accord entre eux, ou qu'est-ce qui les différencie déjà dans leur rapport, comme vous l'avez expliqué, quant à la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les ipsissima verba dei, la parole même de Dieu, et cette trace, cette projection, ou pour l'école Mu'tazilite, cette création de la parole, parce que les conséquences à la fois théologiques et même la compréhension du donné révélé n'est pas la même selon la compréhension.
Écoutez, les Mu'tazilites ne disent pas que le Coran ne vient pas de Dieu. Il vient de Dieu. Et donc, il garde sa sacralité d'une certaine manière. Et d'ailleurs, les Mu'tazilites... étaient les moins férus de l'exégèse du Coran, paradoxalement, même s'ils ont impacté définitivement toute la théologie musulmane, puisque cette pensée très forte des Mu'tazilites a poussé les Ash'arites à faire cette distinction justement entre la parole ontologique et la parole exprimée. Et même les Hanbalites, ils ont fait la distinction entre la nature de la parole de Dieu éternelle et son expression relative historique qui est entre nos mains. Donc d'une manière ou d'une autre, tout le monde est d'accord sur l'origine divine du Coran, mais ils ne sont pas d'accord sur les modalités de cette éruption de cette parole. Donc en réalité, au fond, ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'herméneutique du texte, puisque le texte, il s'offre à toutes les raisons, quelle que soit l'économie de la descente, quelle que soit l'économie de la théologie de la révélation à laquelle on adhère. Puisque les Mu'tazilites, les Ash'arites et les Hanbalites, ils ont interprété le Coran des mêmes manières épistémologiques. Ils ont convoqué des théories linguistiques, le Madhahib Nahouya, ils ont adhéré à des écoles de grammaire pour pouvoir accéder au sens. Ils avaient également des approches de Asbab Nuzul, les circonstances de la révélation. Donc en réalité, ils ont convoqué presque les mêmes disciplines de l'exégèse musulmane. Leur pratique de l'exégèse, on ne voit pas de grande différence entre l'approche Mu'tazilite et l'approche Hanbalite et l'approche Ash'arite quand il s'agit d'interpréter le codex, le scripturaire.
Alors, Tahar Koubrou, dans ce cas, la conséquence de tout ce que vous développez, c'est qu'il n'y a aucune raison, j'allais vous poser cette question un peu plus tard, un peu plus loin dans l'émission, mais je le dis d'emblée, c'est qu'il n'y a aucune raison de donner une valeur anhistorique, ou métahistorique, ou atemporelle, à quelques dispositions ou telle norme, qui finalement ne concernait que le peuple récipiendaire de cette trace de la parole divine.
Oui, en effet, tout dans le Coran n'est pas absolu. Dès le Moyen-Âge, beaucoup d'exégètes, qu'ils soient Mu'tazilites ou Ash'arites ou Hanbalites, ils savent qu'il y a, des choses qui sont uniquement en rapport avec le contexte coranique. Il y a même cette règle qui dit ce qui compte dans l'exégèse, ce n'est pas le sens absolu du verset, mais le sens circonstanciel du verset. C'est la doctrine chafirite, c'est la doctrine hanbalite, c'est la doctrine malikite. La majeure partie des exégètes, quelle que soit leur option théologique, ils considèrent qu'il faut toujours resituer le sens circonstanciel du verset et par la suite, est-ce qu'il est universalisable ou pas. C'est dans l'universalisation du circonstanciel dont il s'agit. Moi-même, j'ai inventé une subdivision pour rendre les choses plus claires. Il y a dans le Coran des passages principiels, tels que l'appel à la justice. Dieu ordonne la justice et la charité, ce qui suppose le pardon. Donc c'est un passage principiel. Mais en même temps, il traduit ce passage principiel dans des dispositifs juridiques concernant l'héritage, concernant le droit des femmes, etc. C'est une justice relative à un moment coranique. Ce qui va intéresser le canoniste ou bien le théoricien de la loi, c'est l'esprit de la loi et pas forcément le produit final coranique, parce qu'on s'inspire de la méthode de la révélation coranique, c'est-à-dire négocier le principe universel en rapport avec une situation donnée. C'est pourquoi j'ai parlé de l'épistémologie coranique du réel, c'est-à-dire la mise en rapport de l'absolu avec la circonstance. Donc il ne faut pas confondre dans la taxonomie les passages qui restent universels et les passages qui pourraient être universalisables ou pas, selon le réel où se trouve l'exégète ou bien la communauté musulmane concernée.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission « Questions d'islam ». Et aujourd'hui, nous parlons à la fois d'exégèse, d'herméneutique, de commentaires, de compréhension du texte révélé, du Coran, avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Et le titre de l'émission, c'est « Pour une épistémologie coranique du réel ». Avec ce saut ou ce passage de ce qui est essentiel au sens premier du terme et ce qui est conjoncturel, circonstanciel, s'articulant dans l'histoire, transmis par des cultures et appréhendé par la psyché humaine et épousant les contingences des hommes. Pour cette deuxième partie, Tarek Oubrou, le débat actuel, et dans une émission précédente, il y avait un intervenant, Hammadi Redissi, pour le nommer, qui disait « Le drame des sociétés musulmanes, c'est de n'avoir pas opéré une sorte de rupture avec le passé concernant l'entrée dans la modernité. Pour lui, il y a une sorte de tuilage, une sorte de continuité comme ça. Avec cette compréhension d'une épistémologie du réel pour aborder le Coran, faut-il une rupture ou rester dans la continuité en l'adaptant ?
Pour ma part, ni intellectuellement, ni psychologiquement parlant, je ne suis favorable aux ruptures. Il faut toujours s'inscrire dans une continuité sélective, éclectique. Tout n'est pas faux dans la pensée médiévale musulmane. Je pense même qu'il y a des aspects très modernes dans la pensée classique musulmane. Encore faudrait-il la maîtriser et la connaître, parce que l'âge classique a produit une théologie très sophistiquée, une mystique très pointue, au sol le faire les fondements du droit, qui est une discipline très 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 complexe, très nuancée. Donc tout n'est pas faux dans le passé. Le problème, c'est les savants contemporains. C'est l'incapacité des savants musulmans aujourd'hui d'articuler un savoir qui est déjà disponible avec le savoir contemporain. Nos ancêtres musulmans, ils ont développé une théologie, par exemple, en rapport avec la physique d'Aristote. Aujourd'hui, il y a la physique quantique, il y a la biologie moléculaire, il y a l'informatique. C'est avec ce monde-là qu'il faudrait aujourd'hui discuter. Mais le paradigme est déjà là, je pense. Il faut le trouver dans la pensée médiévale. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous choquer aujourd'hui parce qu'ils ont pensé l'islam à leur époque. Et l'islam a toujours été porté par des cultures. Le Coran lui-même, il a été porté par la culture de son temps. Et donc, c'est ce que j'appelle la théologie d'acculturation. C'est-à-dire, une religion a besoin, pour être reçue et transmise, d'une culture. Donc, à condition de ne pas confondre l'enveloppe culturelle avec le noyau et l'esprit de ce message-là. Toute la difficulté, c'est de faire ce discernement, la chose qui change et la chose qui ne change pas dans ce dispositif musulman. Donc effectivement, moi les ruptures, je n'aime pas trop les ruptures. Encore faudrait-il savoir avec quoi on rompt avec quoi.
Oui.
Donc il faut maîtriser la complexité de la pensée ash'arite. C'est pas pour la reproduire, mais au moins la connaître et puis avoir une raison critique. Ce sont des gens qui ont fait ce qu'on appelle l'ijtihad. Ils ont fait leur travail à leur époque. Donc faisons le nôtre à notre époque.
Peut-être que je ne reproduis pas la pensée de Hammadi Redissi, mais d'une manière générale, peut-être que cette idée de revenir au texte sola scriptura, comme auraient dit nos amis protestants,
oui.
Et tenir compte certes de tout les corpus second au pluriel, mais ne pas les considérer comme essentiels. Revenir dans cette épistémologie du réel à la source primaire.
Oui, c'est clair, c'est ce que j'essaie de faire modestement.
Bien.
Mais on ne peut pas faire l'économie d'une connaissance de 14 siècles. Par curiosité intellectuelle, il faudrait savoir ce que les gens, par le passé, ont dit. Et puis
bien entendu. Et donc, l'incapacité de ces savants musulmans. Je suppose que vous parlez des théologiens ou de philosophes ou d'intellectuels musulmans est dû à une paresse ou au champ du savoir qui est étendu ou surtout, ce qui serait encore plus grave, c'est leur méconnaissance de ce qui a été produit dans d'autres contextes et notamment en Occident, cette fameuse séquence moment Descartes, moment Freud, est-ce qu'il y a entre les deux et qui peut-être a été totalement marginalisé ou ignoré au lieu de l'ingérer, de l'assimiler, de l'étudier, de la critiquer et de la dépasser.
Oui, certainement il y a une incapacité déjà à saisir ce qui a été produit par le passé parce que un Razali dans le Mabahith Sharqiya, dans son ouvrage de théologie, je vous assure, en le lisant...
Mabahith Sharqiya, ce sont des études,
des recherches orientales,
mais
en vérité, c'est de la théologie.
Oui.
Mais en vérité, vraiment, ça donne la migraine. C'est pire que les ouvrages de Hegel. C'est compliqué, c'est complexe. Donc, il faut savoir ce que les autres ont produit en matière contre Razi, il parle du temps, mais vraiment, c'est d'une approche très moderne. Est-ce que le temps existe? C'est ce que la mécanique quantique aujourd'hui et la relativité d'Einstein posent comme question. La relativité du temps, ils ont anticipé beaucoup de questions de manière métaphysique, mais qui sont aujourd'hui posées de manière scientifique. D'une part, il y a une incapacité à saisir la production de 14 siècles de milliers de savants musulmans, mais nous avons également une autre incapacité à saisir ce que l'Occident a produit comme connaissance sophistiquée. Donc il s'agit d'être à l'interface des classiques et du moderne et d'être doublement critique. Critique par rapport à ce qui a été produit au nom de l'islam et être critique par rapport à la connaissance contemporaine. Donc il ne s'agit pas de canoniser la connaissance contemporaine. Il est sujet également à critique. La sociologie, l'anthropologie, il y a beaucoup de théories physiques, etc. Donc il faut être en capacité d'avoir cette double compétence d'être à la fois critique à la production, par rapport à la production classique, théologique, canonique, etc., et même philosophique, produite par la pensée arabo-musulmane, mais également être critique par rapport à ce que produit l'esprit humain aujourd'hui, même si on a atteint un niveau très très élevé de production intellectuelle aujourd'hui.
Alors, Talq Oubrou, que pensez-vous de ceux qui disent, comme il y a deux phases dans la révélation coranique, globalement, on a la phase mécoise et la phase médinoise. L'essentiel du Coran ou de cette révélation est dans la portée dans le souffle universel de la période mécoise. Quant à la partie médinoise, qui est un peu plus normative, un peu plus principielle, un peu plus même de facture législative et de veine d'approche canonique, il faut la laisser à son temps et ne prendre en considération que la période mécoise.
Là aussi, il y a un malentendu, parce que qui peut définir un passage mécois et un passage médinois? Par exemple, le surat al-Rahman, la surat de la miséricorde. Est-ce qu'elle est mécoise? Est-ce qu'elle est médinoise? Etc. La première difficulté, c'est la taxonomie temporelle des versets. C'est un texte intriqué où le mécois s'intrique avec le médinois, etc. Donc, il faut changer de paradigme. C'est très simpliste de dire, voilà, il y avait une période mécoise, c'est très tolérant, etc., etc. Et puis, médinois, il y a une période belliqueuse, etc. C'est un paradigme herméneutique qui est, à mon avis, très faux. Il ne tient pas la route, parce que le djihad, il a été annoncé à la Mecque déjà. De quel djihad s'agit-il? C'est-à-dire, en réalité, la taxonomie la plus appropriée, c'est de serrer le passage principiel, qui n'a rien à voir avec la période mécoise ni médinoise, et puis les passages principiels, qui n'a rien à voir avec la période ni mécoise ni médinoise. Donc, il faut changer de gravité herméneutique en sortant de cette dichotomie mécois-médinois, qui ne répond pas à la complexité de la taxonomie des versets, qui parfois pose un grand problème pour les exégètes, parce qu'il y a des passages et des sourates dont on ne sait pas est-ce que véritablement ces sourates, ces chapitres relèvent de la période mécoise ou de la période médinoise. Donc il y a une difficulté. Moi je pense qu'il faut changer de paradigme et de ne pas être dans ce raisonnement, à mon avis, un peu simple.
Oui, vous avez tout à fait raison de dire qu'on simplifie par trop les choses qui sont, par essence, complexes, difficiles, compliquées. Simplement, et le simplement n'est pas une restriction, dans le domaine, par exemple, de la liberté, j'ai en tête l'œuvre de Benjamin Constant quand il parle de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Donc il y a des libertés, la liberté politique et collective et la liberté individuelle. Les musulmans dans les contextes occidentaux jouissent en principe des deux. Alors que dans les contextes islamiques, les choses sont beaucoup plus difficiles. Et comment expliquez-vous, en lien justement avec cette épistémologie du réel, que là où il y a davantage de liberté, il y a une sorte de crispation identitaire et l'on abdique en quelque sorte sa propre liberté dans une approche quasi fanatique, je peux même enlever le quasi des choses.
Écoutez, d'abord, il faudrait peut-être rappeler que l'islam, au départ, était une religion qui est devenue une civilisation, une identité au fil de l'histoire. Et à un moment donné, l'identité et la logique de la civilisation a pris le dessus sur cet esprit de la religion qui est initialement purement spirituel. Et donc, il y a une confusion entre l'appartenance à une spiritualité et l'appartenance à une culture, à une civilisation, à une identité. Donc c'est la logique d'identité aujourd'hui qui prend le dessus sur la logique du spirituel qui, par essence, il circule dans une continuité avec n'importe quel contexte. Donc la logique anthropologique, la logique psychologique l'emporte souvent sur la logique d'une religion qui se veut une religion d'altérité par essence. Donc il faut faire le discernement également dans le comportement des musulmans, ce qui relève de l'identité historique qui est due à un effondrement d'une civilisation qui se répercute négativement sur l'identité émiettée d'un certain nombre de musulmans et qui pousse justement à une crispation intellectuelle, parce que le psychologique il est lié à l'intellect. Donc quand on est dans une posture de vraiment de pensée, de mentalité assiégée, d'une pensée victimaire, etc. Donc le rapport au texte, il serait un rapport biaisé. C'est pour cette raison, la condition nécessaire pour interpréter les textes, c'est d'être dans une disposition presque mystique, être non localisé ici et ailleurs en même temps, avoir un recul spirituel et moral et de ne pas instrumentaliser la religion pour des raisons politiques, économiques, identitaires et qui n'ont rien à voir avec l'essence même d'une religion qui cherche la paix. Le propre de l'islam, c'est la paix. Une religion ne peut pas prospérer dans le conflit, dans les tensions, parce que son objet premier, c'est la transcendance et la connexion avec le divin. Or, on ne peut pas avoir une relation avec Dieu dans le conflit, parce que le cœur du message coranique, c'est Dieu qui est au centre de... C'est comment se dépasser. Une religion, c'est le dépassement de soi pour réaliser une altérité avec le divin, afin de réaliser par la suite une bonne altérité avec autrui, musulman ou pas.
Tal Kubrou, c'est vrai qu'il y a une confusion, en tout cas au moins... à l'oreille, entre l'islam avec la majuscule, l'islam avec la minuscule, la religion, la civilisation. Mais de toute façon, l'islam était un ordre politico-religieux quand il s'agit du Moyen-Âge, parce que à l'époque, la notion de citoyenneté n'était pas aconfessionnelle, il n'y avait même pas de notion de citoyenneté. Néanmoins, une production, pour rester dans des choses très classiques et simples, d'un Al-Farabi mort en 950, avec sa cité vertueuse, ou plus exactement les idées, les opinions des habitants de la cité vertueuse, pour lui, la conquête du bonheur et la quête du salut devait même dans certains cas se faire sans le recours ni implicite ni explicite à la révélation. Donc il y a une mission qui incombe à l'homme, c'est peut-être tasser le sa'ada, la conquête du bonheur ou l'aboutissement au bonheur.
Oui, sauf que dans la religion, il s'agit d'un régime de vérité. C'est pas la quête du bonheur pour le bonheur. Un bonheur sans vérité n'a aucun sens dans l'économie de la religion révélée. Donc, il s'agit d'abord de la vérité. Donc, ça, c'est un autre sujet. Sa'ada, c'est quoi le bonheur, etc. Ça aussi, c'est un autre débat. Bien sûr, on peut être dans la rectitude, on peut être dans le bonheur sans le secours de la révélation, ça c'est clair. Sauf que la révélation apporte une notion de la vérité, notamment la vérité sur Dieu lui-même. Quant à la question de la confusion entre le politique et le théologique, il est né avec l'islam lui-même. Déjà à l'époque de Médine, le prophète avait la tâche de gérer le temporel, l'aspect temporel, de la cité, mais cela ne faisait pas partie de sa fonction prophétique, puisqu'il a refusé d'être qualifié roi. Il disait à ses compagnons, je ne suis pas roi, je suis le serviteur et le messager de Dieu. Pour ne pas confondre, justement, entre sa mission prophétique et sa gestion temporelle de la cité. Il y a un ouvrage célèbre à cet égard-là, qui fait la taxonomie des comportements du prophète. Il s'appelle l'ihkam fi tamyiz al-fatawa 'an al-ahkam wa tasarrufat al-qadi wal-imam, c'est-à-dire les lois concernant le discernement entre la logique de la fatwa, la logique de la loi théorique et le comportement du juge et de l'imam en tant que chef temporel. Et le prophète a concentré presque toutes ces fonctions-là, mais il y a une partie qui ne relève pas du régime de la révélation. Ces jugements n'étaient pas des jugements révélés. Parfois, il faisait des fatwas et il se trompait, donc il y a le Coran qui le rectifie. La gestion du temporel, bien sûr, ne faisait pas partie de son... Donc déjà, on a besoin de remonter justement jusqu'à l'origine justement de l'islam pour distinguer ce qui relève d'une révélation et dans la révélation, ce qui relève de ce qui est permanent, de ce qui est circonstanciel. Donc il y a un problème très complexe de discernement, le Fouroq, d'ailleurs le Qarafi, l'auteur de cet ouvrage.
Oui, Shihabuddin.
Le grand malikite, qui était en même temps un artiste aussi, qui était un sculpteur, et qui maîtrisait la connaissance classique et la connaissance profane de son époque, eh bien, il a commis un ouvrage monumental qui s'appelle Forok, c'est-à-dire le discernement, la séparation des ordres. Donc, à cet égard-là, il y avait dans les comportements du prophète plusieurs dimensions dont certaines ne relèvent pas de sa mission prophétique. Et on a besoin de ce discernement pour pouvoir justement serrer les enseignements de l'islam, ceux qui sont valables pour nous aujourd'hui et ceux qui ne le sont plus.
Tariq Oubrou, il y a deux choses. La première, c'est la charge, disons, temporelle ou la partie temporelle de la mission prophétique du temps de Médine, quand il devait gérer les affaires publiques, la cité de Médine. Ça ne devait pas être transmis après lui, parce que ce n'était pas une charge dynastique. Et donc, ça devient une affaire proprement humaine. Donc, à aucun moment, cette partie-là n'a été une charge héréditaire. Mm-hmm. Et le second point, c'est le rapport avec ou à la vérité. Si le Coran en autoréférence, et notamment dans la sourate, les versets détaillés, hein, le verset de mémoire, je le dis sous votre contrôle, 53 à 54, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur apparaisse que ceci est la vérité ou est le vrai, et ne se suffit-il pas de ton Seigneur alors que sur toute chose il est témoin. C'est le plus important, c'est effectivement un rapport à la vérité, ou c'est ou le salut de l'homme, réussir son passage ici-bas. C'est pas pour que je marque bout à la notion du bonheur, c'est quelle est justement la destinée de l'homme.
Vous avez raison d'évoquer ce passage, parce que ce passage est un fondateur et fondateur de toute l'épistémologie herméneutique, dans le sens où on ne peut pas comprendre le Coran si on n'ouvre pas les deux autres livres, le livre naturel cosmique et le livre anthropologique, c'est-à-dire chercher la vérité dans l'homme lui-même, et dans la nature et dans la création. On ne peut pas lire le Coran, uniquement le Coran. Le Coran, c'est un ouvrage, c'est une révélation ouverte sur d'autres modes de connaissances et d'informations. Il propose une vérité, mais cette vérité ne s'impose pas. Il propose la vérité de Dieu, il confirme la vérité de Moïse, la vérité de tous les prophètes de la Bible, puisque nous sommes dans une religion monothéiste. Mais le salut, c'est autre chose. On peut être dans l'erreur dans ce bas monde et avoir le salut dans l'au-delà. Donc il faut séparer également les deux ordres, l'ordre eschatologique et l'ordre de la vérité accessible à l'être humain. Ce qui est demandé à l'homme, c'est de chercher la vérité sincèrement, et pas de l'obtenir. Il n'y a pas d'obligation de résultat avec Dieu, tel que je le comprends à travers les textes. C'est que il y a des athées qui sont honnêtes. En réalité, ce que le Coran condamne, c'est la mécréance en connaissance de cause. Mais celui qui n'a pas trouvé de raison de croire, puisque Dieu renvoie à la raison humaine, il ne juge les personnes qu'à travers ce que leur raison leur a dicté comme vérité. Mais ce qui est condamnable, c'est de refuser la vérité par orgueil. Voilà, c'est le péché radical que le Coran condamne sans appel. Connaître la vérité et la refuser par orgueil. Le reste, le salut dans l'au-delà, c'est dans la main de Dieu, qui est miséricordieux par essence. Mais oui, parce que confondre toutes les vérités, c'est tuer l'humanité. Et puisque le Coran fait l'éloge de la diversité. Ils seront toujours divergents. Et c'est Dieu qui va juger le jour du jugement dernier quant à leur divergence. Et donc effectivement, le musulman doit être en tout cas très serein. Il a sa vérité, mais il n'exclut pas les autres parce qu'il a une vérité. C'est-à-dire qu'il doit donner place dans sa vérité à autrui, puisque Dieu a donné la place à tout le monde, d'une certaine manière.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec le grand imam de Bordeaux, Tariq Oubrou, nous parlons d'une épistémologie coranique du réel afin de comprendre les motivations, les attendus, une propédeutique même de la révélation coranique. Et comme vous parliez, Tariq Oubrou, du rapport avec la vérité, si je puis me permettre une question, oui, non sans un brin de provocation, et quand bien même on aurait refusé la vérité, même par orgueil, ça ne passerait pas sous le registre d'un délit d'opinion, et alors où c'est si grave qu'il y a une déchirure dans l'harmonie du monde et dans l'ordre cosmique?
Oui, c'est pour cette raison. Beaucoup de savants pensent que l'enfer n'est pas éternel et que l'homme n'a pas créé l'homme pour la souffrance éternelle et que la béatitude est la fin des fins. Donc, bien sûr, il y a le côté toujours de la morale. Est-ce qu'on peut avoir une morale sans le rapport avec la religion? C'est un débat très ancien et d'actualité. Mais personne, comme je l'ai souligné, ne peut pénétrer l'intention et la pensée ontologique de Dieu. Puisque le prophète lui-même dit « Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous-même. »« قُلْ لَا أَدْرِي مَا يُفَعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ » Être dans l'islam ne veut pas dire que je suis, j'ai déjà les deux pieds dans le salut. Au contraire, il faut toujours rester modeste et humble devant la vérité. Et donc le Coran, c'est une vérité, mais il faut chercher la vérité dans la vérité. Nous sommes créés pour connaître, et on revient à la question de la connaissance. Et oui, Dieu a créé l'homme faillible, telle est sa volonté. Le péché en tant que péché n'est pas un péché. Le péché devient un péché lorsqu'il est justifié. Mais tout péché est susceptible d'être gracié par la seule miséricorde de Dieu. Donc il y a ce que j'appelle le joker divin. Ça, personne ne peut se prononcer à la place de Dieu. Donc restons humains et humbles et tolérants.
Oui, sortir, et davantage que la tolérance qui pourrait trahir une attitude asymétrique entre le toléré et le tolérant, qu'une exigence de respect, d'amour, de bonté, de miséricorde. Mais
vous aviez raison de souligner cette nuance. Quand j'ai dit tolérance, c'est bien sûr accepter cela, puisque le Coran, il ne s'agit même pas de tolérer les autres, mais d'accepter un dessein divin.
Accepter le dessein divin, et c'est pour parler d'une manière très simple et prosaïque, je n'arrive pas à comprendre moi-même que d'aucuns disent que pour peu qu'on a hérité son islam de ses parents, on va jouir des délices paradisiaques, alors qu'une mère Teresa ou un abbé Pierre ou un juste parmi les justes périrait par le feu de l'enfer parce qu'il n'a pas reconnu la prophétie mohammedienne. Dans cette épistémologie du réel, quelles sont les répercussions pratiques, notamment pour la jeunesse, afin de comprendre, parce que vous et moi sommes maintenant dans des cimes éthérées d'un débat intellectuel, mais sa partie pratique, comment la voyez-vous, cher Tariq Oubrou?
Je pense que l'enseignement de l'islam doit passer par une simplification, ce que j'appelle l'orthodoxie minimaliste, des dogmes ambivalents qui laissent une grande latitude aux croyants musulmans de se représenter Dieu, le salut, et puis une orthopraxie minimaliste concentrée sur l'essentiel des pratiques. Bien sûr, il y a le culte qui ne change pas, avec des aménagements pour que les musulmans à la fois respectent à la fois sa religion, mais également en prenant en considération son rythme social, professionnel. Donc il y a toujours des principes cultuels avec des aménagements dans la pratique. Donc réconcilier la fermeté des principes avec la souplesse dans la pratique. Donc il faut simplifier, parce que je pense qu'il ne faut pas trop angoisser le musulman par des boulets normatifs à outrance, parce que trop de religion tue la religion, trop de pratiques asphyxie la pratique, et donc il faut une pédagogie de l'essentiel, de se concentrer sur la bonté, la charité et les pratiques spirituelles et l'ouverture sur l'autre. On ne peut pas aujourd'hui vivre sa religion dans des sociétés mondes intriquées où toutes les religions, toutes les convictions, toutes les confessions se côtoient. On ne peut pas aujourd'hui vivre sa foi sans cette dimension d'altérité, vivre sa foi avec l'autre qui est différent. Aujourd'hui, il faut changer complètement d'interprétation de la religion, parce que notre monde a brutalement changé. Nous sommes dans un monde où tout est imbriqué, donc il faut savoir avoir une éthique d'altérité, une théologie d'altérité, une spiritualité qui ouvre sur l'autre, et pas une religion qui se transforme en bouclier identitaire de protection. La religion est faite pour créer des ponts et pas pour créer des murs et des frontières.
Alors, comment une compréhension dans le sens que vous venez de dire, qui est la croyance en Dieu implique d'être au service des hommes, hommes et des femmes, de l'humanité, et dans un contexte sécularisé, puisse donner lieu à une citoyenneté harmonieuse, apaisée, paisible, heureuse même, en s'acquittant de ses devoirs afin de jouir de ses droits.
Oui, il faut réconcilier entre sa citoyenneté céleste, spirituelle, et sa citoyenneté terrestre française, dans le contexte que nous connaissons, de la République laïque, dans une société très sécularisée où la religion ne gère pas, ne conditionne pas la vie publique. Donc il faut vivre sa religion à l'échelle individuelle avec les autres. Je pense même que la religion, théologiquement parlant, de l'islam, est une religion de l'individu, puisqu'il ne s'agit pas d'une religion d'église ni d'un peuple, mais de l'individu en connexion directe avec le divin. Donc la communauté spirituelle ne veut pas dire communautarisme. Il faut toujours apprendre à nos enfants, en tout cas musulmans, de cultiver l'individualité, de l'esprit critique. Être dans une communauté religieuse ne veut pas dire être un clan parmi d'autres. Puisque Dieu est unique, il a créé l'homme unique à son image, cultivant l'unicité et la singularité des êtres, y compris les êtres musulmans.
Tariq Oubrou, comment voyez-vous la manière d'irriguer cette jeunesse, le ruissellement? Alors, on a le ruissellement en économie, et je ne sais pas s'il est probant ou pas, mais le ruissellement au niveau des idées, et surtout les idées théologico-philosophiques, pour que ça puisse prendre pour notamment la jeunesse, mais pas uniquement.
Il faut passer par une réfutation radicale des discours qui cultivent le séparatisme mental, qui crée une séparation intérieure, mentale, chez les musulmans par rapport à leur société. C'est vraiment condamner les musulmans à une disparition totale. Il y a des discours qui ne sont pas forcément fanatiques, mais qui inspirent le séparatisme. Donc, ce que j'appelle, moi, une théologie préventive, ou faire attention, et là, j'adresse la parole aux imams, aux prédicateurs, aux youtubeurs, aux influenceurs musulmans qui, dans une logique identitariste ou économique ou je ne sais pas quoi, en train de cultiver le communautarisme aux dépens d'une spiritualité qui doit mettre le musulman en diapason par rapport à son environnement, notamment français. Et donc, oui, il faut passer par une réfutation intelligente de déconstruction d'un discours qui vise à marginaliser les musulmans du devenir de l'histoire humaine. Il faut qu'ils contribuent, les musulmans, ils contribuent à la civilisation occidentale en tant que citoyens, nourris par leur spiritualité comme une valeur ajoutée à la société française notamment.
Merci infiniment. Merci, cher Tariq Oubrou. Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam et nous avons parlé de l'épistémologie coranique du réel avec le grand imam de Bordeaux, Tariq Oubrou. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal et la réalisation par l'ami Émilie Vallat. Thank you.